Mon Dieu,
tiens. L'ordinateur a décidé que l'extrait partait maintenant. Mais voilà, pour continuer sur notre lancée d'extraits de pièces de théâtre, on jase aujourd'hui avec quelqu'un de bien spécial, notre Diane Lauzier nationale. Bonjour Diane!
Allô Juliane!
Je suis très heureuse d'avoir le rayon de soleil en onde pendant la journée de pluie.
Ah, oh, t'es trop fine. Je suis vraiment, vraiment contente de faire ça avec toi. Puis je te l'ai dit en privé, puis là, je vais le dire, mais je veux dire, tout le monde le sait. Ils t'écoutent, ils savent. Je te trouve vraiment bonne. T'es une bonne animatrice, t'es une bonne intervieweuse. Je suis fière de toi, Juliane.
Merci. Merci beaucoup, Diane.
Parce qu'on se connaît, nous autres.
Beaucoup, ben oui.
C'était dans Louis Maillot, hein? C'est là qu'on s'est connus la première fois.
Ouais, ça date. Puis Louis Maillot, ça fait déjà 10 ans, je crois, que ça a commencé, ça se peut-tu?
2010, 11, 10? Ouais, 10 ans, oui.
Ça fait 10 ans.
10 ans cette année. Hé, hey, Seigneur, hey, toi, t'étais toute jeune, t'es encore jeune, mais je veux dire, t'avais quel âge?
Ben, il me semble, si ça fait 10 ans, ça veut dire que j'avais un 12, 13 ans peut-être.
Arrête donc, ouais. Toi. Ah, puis t'as décidé que tu voulais faire de la radio.
Ben j'ai décidé, ou je sais pas, on dirait que ça m'a comme appelé, puis je suis lancée là-dedans.
Puis t'as passé ton cours au collège communautaire?
Oui.
Wow, c'est vraiment le fun qu'il y ait un programme comme celui-là. Puis ça va à peine, là, je vois qu'ils font de bonnes jobs.
Oui.
Salutations à Jean-Guy Landry, Mathieu Friolet.
Oui.
Voilà, c'est fait.
Ben salut mes anciens enseignants. La deux semaines passées, pendant la chronique, j'ai parlé avec Florence Brunet qui a mentionné qu'à la place d'essayer de se plonger dans le théâtre à la maison, d'essayer de trouver une façon d'intégrer le théâtre dans son quotidien, elle avait plutôt profité, admettons, de cette espèce de congé forcé pour décrocher, faire des choses qu'elle n'avait jamais le temps de faire d'habitude. De ton côté, est-ce que tu essaies d'avoir ta dose de théâtre ou que tu fais des diamond paintings parce que tricoter, tu le faisais déjà dans l'opéra rock?
J'avais l'air d'une tricoteuse, moi, dans l'opéra rock. J'aurais voulu plus décrocher, mais je travaille beaucoup. Parce que il y a beaucoup de mon travail que je fais avant d'aller faire mes contrats.
Oui.
Je fais une grosse partie avant d'aller faire mon contrat.
Okay.
Fait que il y a une pièce de théâtre qu'il faut que je garde en vie parce que je devais la jouer, je devrais être à Ottawa, à Toronto, tout de suite.
Okay.
On devait jouer la deuxième partie, la deuxième série des représentations du Club des éphémères, un texte d'Alain Dôme. Et puis, j'ai répété ça à Toronto, pas Sudbury cet hiver. On a joué à Sudbury. On a été obligé d'arrêter la pièce à cause du virus. Puis là, la deuxième série de représentations a été annulée. Puis c'est comme ça pour tous mes projets. Donc, il y a du travail de réaménagement dans mon calendrier.
Ouais.
Et aussi beaucoup de travail d'écriture par rapport à des projets futurs. Parce que j'ai beaucoup de choses qui se préparent. Mais il y a beaucoup de rédaction, beaucoup de... Oh, mon Dieu, ça finit plus. Mais, je vais te dire de quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais te dire, je suis pas couchable le soir. Je suis décollée sur Netflix.
Oh,
ah, Seigneur de la vie. Ça faut que je me raisonne pour me coucher là, le matin. Là.
Mais,
le matin, je dis bien le matin.
Ben oui, le matin. Mais qu'est-ce que t'écoutes?
Là, j'ai écouté... Je vais te parler de mon coup de cœur.
OK.
La Casa de Papel.
Ah, ben oui, voilà. OK.
La maison de papier. Là, l'auteur, Alex Pina, un homme de 52 ans, un Espagnol qui a décidé d'amalgamer l'action et des personnages riches en émotions. Parce que lui, il trouvait que les films d'action étaient trop vides à son goût et les films où il y avait des personnages intéressants, c'était pas vraiment sa tasse de thé. Fait qu'il a amalgamé ça ensemble, puis ça donne la Casa de Papel. Quand ça a fini, là, j'ai eu un deuil parce que je m'ennuyais des personnages. Ça, c'est réussi.
Oui, c'est vrai.
Puis quand une émission finit, puis tu dis « Ah, quoi? Ça fait déjà 48 minutes. » Fait que toi, t'as écouté ça toi aussi?
Ben non, honnêtement, mais tout le monde autour parle de cette saison, de toute cette émission-là.
Ben, garde, c'est que moi, ça fait deux ans que j'étais sur une lancée là, du maudit, puis je pouvais pas aller écouter du Netflix. J'avais pas le temps. Puis je me connais. Je veux dire, je peux binge-watcher. Là. Ça fait que j'attends... Ouais. J'ai pensé, ben quand j'aurai du temps, là, je pensais que ça allait être l'année prochaine. Mais
ouais,
là, ça a donné, à cause de tout ce qu'on vit, ça nous donne du temps. Fait que là, je suis comme addictée à avoir du temps.
Ah, OK. Est-ce que c'est une addiction dangereuse, ça?
Oui. J'aime bien ça, moi, coucouner. Puis, fait que là, c'est ça, je suis décollée là-dessus. Pardon, je découvre Netflix. Je connaissais, mais là, écoute, là, j'ai posé Ozark. Puis, j'ai écouté plein de séries. C'est vraiment fabuleux. Puis, entre ça, ben, c'est ça. Je travaille sur mes futurs projets et je garde mon texte du Club des éphémères en vie. Ça, ça veut dire que je me suis enregistrée dans une application qui s'appelle Line Learner. Et ça, c'est extraordinaire. S'il y a des comédiens, des comédiennes qui m'écoutent, vous ne pourrez pas vivre sans ça si vous avez cette application-là. Ce qui fait que j'ai tout enregistré la pièce. Puis après ça, je la fais jouer, puis je réponds à mes répliques. C'est que je peux faire la vaisselle, je peux faire n'importe quoi.
Ben oui.
Moi, je dis mon texte pour le garder en vie. Parce que moi, je suis addictée à penser comme mon personnage et non pas à penser à ce que je vais dire.
OK.
Qu'un coup que tu découvres ça, c'est là que tu commences à créer. Puis j'ai un fun bleu, fait que j'arrive très préparée quand je travaille. Ça fait partie de mes gros buzz de mon métier, qui est le théâtre.
Oui, bien là, avec tous les projets qui ont été mis un peu sur la glace, mais le travail qui continue, comment toi, tu perçois le monde du théâtre une fois que la pandémie va être terminée?
Je le perçois. J'imagine, mais c'est très difficile parce que moi, je vais te dire, là, je m'attendais pas à ce qu'on nous dise que peut-être qu'on pourrait peut-être pas exercer notre métier pendant plusieurs années.
Ouais.
Je m'attendais pas à ça. Moi, quand je suis arrivée chez nous le 15 mars, là, à cause du virus, puis que je revenais à la maison, je pensais, ça va durer 2 semaines. J'ai jamais pensé.
Ouais.
J'ai pas. Pourtant, j'étais allée me chercher des masques là en janvier avant de m'en aller parce que j'avais peur. Je me disais, il y a quoi qui s'en vient, puis je serais préparée. Mais je pensais pas que ça allait fesser comme ça. Est-ce que c'est la fin? Je pense pas. Est-ce qu'on devra jouer devant, au lieu d'avoir une salle de 100 personnes, on va être 25? Ça serait niaiseux, puis comme ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, on finirait plus de jouer. Puis en même temps, je trouve qu'on joue pas assez longtemps, tu sais.
Ouais.
Fait que là, on pourrait faire des représentations, ça finirait plus. Je le sais pas. Puis l'idée de faire du théâtre, je vais te dire, faire ça sur FaceTime, je suis pas certaine que c'est concluant. J'ai vraiment un peu de difficulté. En fait, comme tu peux voir, j'ai pas vraiment d'opinion arrêtée. C'est plutôt des réflexions. C'est plutôt des réflexions par rapport à ça. Mais je comprends pas tout de suite ce qui va arriver. Je sais juste que je veux pas que ça revienne comme avant. Notre vie de fou, là. Puis là, je suis pas seule. Je veux dire, c'est comme tout le monde se rend compte de ça. Il y a du monde que je connais qui travaille à la maison. Puis ma sœur, entre autres, puis elle adore ça. Elle dit, my God, ça me coûtait 200 pièces de parking par mois. Je veux dire, l'hiver, le stress, driver l'hiver, comment est-ce qu'il s'appelle, Bouchard? Je me rappelle plus de son prénom. En tout cas, il est sociologue. Il anime une animation à Radio... Une émission à Radio-Canada, vas-tu le dire. Puis lui, il proposait, ça fait longtemps, là, qu'on devrait hiberner l'hiver, que tous les éléments sont contre nous autres, puis ça nous cause un stress, tu sais. Juste quand il y a une tempête, on sait qu'il faut qu'on se lève plus de bonne heure pour déneiger l'auto, les conditions des routes. Quand on est au travail, est-ce que je m'en vais? Est-ce que je reste? C'est stressant juste prendre la décision dans une tempête, tu sais. Puis le jugement des autres, parce que si tu veux t'en aller plus tôt. En tout cas, il y a tout ça qui rentre là-dedans. Mais si on restait chez nous, tu sais, janvier, février, c'est ça qu'il disait. Il dit, à partir des vacances de Noël, là, on ne sort plus de la maison, on sort quand ça nous tente, quand il y a une tempête, on reste chez nous. Je trouve que ce qu'on vit présentement est en train de tout... On dirait que ça tout s'organise pour que les choses prennent leur place. T'sais, qui aurait dit qu'un jour que ceux qui travaillent à l'épicerie seraient devenus des gens essentiels pour la bonne marche de la société? Puis que ces jobs-là, qu'on considère assez banals, on les paye quasiment pas, là. C'est pareil comme les personnes qui sont tellement précieuses, qui travaillent dans les centres des foyers pour personnes âgées. tous les métiers que, sur lesquels on lève le nez, je vais le dire, là. Et puis là, on se rend compte que c'est eux qui font ronner la société. Ben, il est grand temps qu'on les paye à leur juste valeur, tu sais. Fait qu'on dirait que tout est en train de se mettre en place, malgré nous.
Ouais, on pourrait jaser pendant des heures, mais on va continuer avec l'extrait que tu as choisi, parce que tous les comédiens, comédiennes qui participent à la chronique choisissent eux-mêmes l'extrait qu'ils enregistrent. Et qu'est-ce que tu as choisi de nous présenter aujourd'hui?
Ben, c'est le premier texte qui nous a fait connaître Georgette Leblanc, la poétesse acadienne de la Nouvelle-Écosse, son texte « Alma ». C'est de la poésie, mais ça se lit comme un roman. C'est écrit en langue acadienne de la Nouvelle-Écosse. Et moi, quand j'ai découvert ça, j'ai tombé à terre. Ça a été, mon Dieu, coup de poing. J'ai reçu ça, là, c'était quasiment violent. À cause de la qualité de la langue, elle tisse des liens tellement puissants. Puis ça nous plonge vraiment, là, loin dans les couches de l'âme humaine. J'ai commencé ça, c'est juste 110 pages, là, ça prend 1h10 à lire. Okay. Mais moi, j'ai ouvert ça en me disant, bon, c'est de la poésie, qu'est-ce qu'elle est? Elle vient de la Nouvelle-Écosse, déjà là. Puis, j'ai pas pu arrêter. J'ai pas pu arrêter avant que je finisse. Ça a été un grand coup de cœur. Puis, je suis pas la seule à l'aimer parce qu'elle a reçu des prix. Prix Félix Leclerc de la poésie, ça c'est au Québec. Le prix Antonine Maillet à Cadivi. Wow. Elle a été finaliste au prix Émile Néligan. C'est séduisant, c'est puissant, puis c'est véhiculé à travers l'écriture d'une grande artiste. Pas en plus, quand j'ai vu ça, j'ai dit enfin les mots de l'Acadie, de la Baie Sainte-Marie s'inscrivent dans la littérature de la francophonie canadienne.
Est-ce qu'on a besoin d'une mise en contexte, l'extrait que tu as enregistré, ou qu'on va comprendre tout de suite en écoutant?
J'ai-tu un petit peu de temps?
Oui, oui.
OK. Ben, en fait, j'ai choisi le début. Le début, parce que c'est la présentation de Alma.
OK.
Elle commence par nous parler de la brume et de ce qui peut arriver quand il y a de la brume. Elle nous explique la brume, déjà là, vouloir expliquer la brume. C'est tellement bien fait, là. Puis, elle nous présente le personnage de Alma. Alma, dans sa vie d'enfant, des gens qui vivent autour d'elle, de sa vie de femme avec sa rencontre de Pierrot, pour qui elle a un grand désir. Et Pierrot qui le lui rend bien. Et puis, il y a sa vie de mère. Qu'est-ce qu'elle va vivre avec cet homme-là? Vous allez entendre l'Antéchrist, on veut évidemment parler de l'Antichrist. On veut parler... Puis comment est-ce que... Moi, selon mon interprétation de ça, c'est que l'Antéchrist, c'est la personnification de l'homme qui est le désir, puis tu peux pas te battre contre ça. Ce serait comme la plus grande force de la nature, tu sais. Tu peux avoir tout ce que tu veux, mais quand tu as un désir, quand le désir est là, il y a pas grand-chose que tu peux faire à part que céder.
Eh bien, sur ces sages paroles, Diane Lauzier, merci beaucoup de ta présence cette semaine.
C'est tellement plaisir.
À la prochaine.
Bye, génial.
Bye-bye.
Oui.
Bye.
La brume à point de saison. Elle apparaît comme un drap épais, la nuit comme le jour, l'hiver comme l'été. De la brume, c'est point de la laine, c'est point de la neige, c'est même point un mur. C'est des milliers de petits nuages de pluie, des nuages de pixels qui dansent sans map, sans identité. C'est point la brume qui sait ce qu'elle est, puis ça l'inquiète point. Mais il y a de quoi dans sa présence? Elle nous habille. Elle marque un territoire que je reconnais son pu, dans un silence qui mire la noirceur, mais qui arrivera jamais dans un silence qui ralentit. Quand ce qu'elle arrive, c'est parce qu'il y avait trop de soleil, parce qu'il faisait trop beau, parce que les goélands sont affamés, parce qu'il y a trop de touristes à la côte, parce que le corps nu menace. Mais c'est point de sa faute. C'est même point une faute si elle arrive comme ça, sans raison, en silence. Son arrivée est plus douce que l'église. C'est point un dimanche rancunier. C'est point la conscience qui l'amène là. Elle n'est point motivée par une envie de guerre ni de sang. C'est sa nature qui la force. Elle avance et grouille tranquille, comme si elle était à sa place partout. Le jour après le passage de la brume, le village voit des traces. Une skirt laissée dans un parc, une car laissée dans un driveway, 3 bouteilles de rhum vide sur le pavé, une femme qui voit croche, puis le village braque. Selon les mois, selon l'épaisseur de la brume, les traces, comme des paumes, l'endon dans les goules de cuir. Et personne joue vraiment pour gagner. C'est rien qu'une game. C'est à cause de la brume qu'ils allaient au point reconnaître l'Antercris. Il arriverait un soir épais. Un ange prit sa terre. Ni fantôme, ni personne. À moitié chemin, à moitié vie. L'Antercris arriverait dans la nuit d'une brume épaisse. Ses bottes noires cirées, sa moustache noire cirée, ses beaux mots cirés. L'Antercris serait la game de baseball dans une pitch. La première et la dernière pitch dans une move. Le village saurait plus quoi dire, puis c'était ça le problème. François le premier s'enfuit dans le bois avec sa famille, ceux-là qui voulaient parler leur langue pour y en rester à la côte. Il fut s'installer dans le fin fond du bois, où c'est qu'il était sûr que la brume l'attraperait point. Il croyait qu'elle allait se rendre en temps, mais la joke était sur lui. Ce que François le premier savait point, c'est que l'Antercris, comme la peur, était la seule affaire qui va te suivre quand c'est que tu te sauves. L'Antercris était dans le bois et tout. L'Antercris était partout. François Ier guettait un homme grand, déjà fait molle, mais l'Antercris, c'était point un homme, c'était même point tout à fait un rêve. L'Antercris, c'était la promesse. C'était le braquement du désir de vouloir attraper de quoi qui s'attrape point. La naissance d'Alma fut tendre. Elle sortit de sa mère d'écorce, et ses bras et ses mains et ses pieds arrêtaient au point de nager comme une picogie. Sa mère, Françoise la première, la nommit Alma, à cause de ses yeux qui dévalaient en creux dans toi, à cause du souvenir de quoi de loin tout d'un coup. Alma, à cause du printemps et de la lumière des pissenlits, à cause qu'elle sentit monter de quoi qu'elle pouvait point nommer. Ce qui montait faisait fondre la glace, faisait mourir une miette. Parce que dans la petite goule de la petite fille, son lait coulait comme de la sève.